La radio officielle Hip Hop Funk R&B
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous les amis, je m'appelle Amine, à votre service, et je suis très heureux de vous retrouver pour Open By sur News FM. Cette fois-ci, on peut vous le dire en direct, il est 20h04, 20h, bientôt 20h05, bonne année ! Nos meilleurs vœux à vous, et surtout la santé ! En ce début 2020, nous allons toujours répondre à la question, c'est quoi les bails ? Autrement dit, quoi de neuf sur Grenoble et ailleurs ? Pour m'accompagner tout au long de cette petite heure d'émission, Mathilde, malheureusement, n'est pas avec nous ce soir. Elle est en partiel. Reviendra-t-elle la semaine prochaine ? Oui. Mais ça ne va pas nous empêcher de bien nous amuser. Parce que ce soir, dans mon instant éloche, ma vision de l'actualité des médias, nous allons répondre à cette question simple. Les journalistes sont-ils détestés ? Comme l'a montré le mouvement des Gilets jaunes, le décalage entre les journalistes et le public semble n'avoir jamais été aussi fort, surtout chez les jeunes. Pour aborder la question, un documentaire qui sera bientôt projeté dans des collèges et des lycées fait le portrait de 6 jeunes journalistes qui sont chacun détestés d'une façon différente. Je vois mon invitée de gauche qui semble déjà intéressée. Elle est journaliste et la personne à côté d'elle est peut-être un futur journaliste. Ce soir, c'est la rentrée en direct d'Open By sur News FM. Donc, on retourne à l'école et plus précisément au lycée. Depuis septembre dernier, finies les premières littéraires, économiques et sociales, scientifiques, L, ES, S pour les séries générales, les lycéens expérimentent la réforme du ministre Jean-Michel Blanquer. L'objectif ? Des cours à la carte et des parcours plus individualisés. Mais pour le personnel du lycée Emmanuel Mounier à Grenoble, dit Mounier, la réforme Blanquer rime surtout avec pas clair. Pas clair du tout même. Pour mieux comprendre cette réforme et la manière dont elle est vécue au quotidien, le média en ligne Les Jours s'est immergé dans la classe de première G4 du lycée Mounier. Et on en parle ce soir avec la journaliste en immersion Maïté Darnaud, qui suit cette classe de première, et Lucas, qui est le délégué de la première G4.
Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Bonsoir Maïté, bonsoir Lucas.
Bonsoir Amine.
Comment on va ?
Bah bien, bien.
Lucas, ça va ?
Très bien.
Très bien. Bah, on est très content que vous soyez venu ce soir, que vous ayez accepté l'invitation d'Open By sur News FM. Bonne année, nos meilleurs vœux.
Merci, bonne année aussi.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2020, à part à bien sûr être sur News FM ?
Que des bonnes notes pour Lucas.
J'espère. Et puis le bac, j'ai un peu peur.
Ouais, non, faut pas s'inquiéter, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Maïté, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi pour 2020 ?
Des beaux reportages, continuer cette chouette immersion à Mounier.
Eh ben écoute, c'est ce qu'on te souhaite pour 2 ans, hein, c'est ça ?
Ouais.
Première et la terminale, l'année du bac. Et s'il y a des redoublants, tu les suis l'année d'après ou pas ?
Ah ça, je sais pas, faudra voir avec le patron des jours.fr.
Écoute, on l'appellera, non on l'appellera pas, mais on verra, on s'arrangera, t'inquiète. On a de très très forts réseaux à News FM. Pour vous connaître, parce qu'on vous connaît pas très bien, c'est un gimmick de l'émission, on vous propose un petit portrait chinois. Vous connaissez le principe ?
Oui, j'ai révisé sur Google, j'avoue.
C'est très bien. Lucas, tu connais le principe ou pas du tout ?
Je connais, non, mais je ne connais plus du tout le principe.
Alors, on va essayer avec Maïté, puis après, t'essaieras, d'accord ? Alors, Maïté, si tu étais une ville ?
Je serais Grenoble, parce que les Grenoblois sont très chauvins, donc je ne pourrais pas être une autre ville.
Ouais. Toi, Lucas, tu serais quoi comme ville ?
Lyon.
Lyon ? Tu es lyonnais à la base ?
Lyonnais, oui.
Ouais. Entre Lyon et Grenoble, c'est un petit peu la rivalité quand même.
C'est vrai.
Maïté, tiens, puisqu'on va parler de l'école, si tu étais une matière scolaire ?
Le français.
Le français ?
Ouais.
Pourquoi ? Littéraire, l'esprit,
ouais,
l'écriture ?
Ouais, j'ai toujours bien aimé écrire, c'est ce que je continue à faire aujourd'hui, j'ai cette chance, donc allons pour le français.
Et ben d'ailleurs, si tu étais un livre ?
Si j'étais un livre, je serais À nos amis, le dernier livre du comité invisible.
Ça parle de quoi ?
Ça parle de l'insurrection qui est plus ou moins venue.
D'accord, ok. Un livre anarchiste, révolutionnaire, mon Dieu, mais où va le monde ?
Un petit peu.
Oh là 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 là. Toi, Lucas, un livre ? Non.
Non, je ne vois vraiment pas quel genre de livre je pourrais être.
Alors, est-ce que si tu étais un personnage de fiction, Lucas?
Peut-être le Docteur. Une série que j'aime beaucoup, Doctor Who.
Ouais.
Donc oui.
Il y a un docteur que tu préfères?
Peter Capaldi, il me semble.
Ouais. Il joue dans les... Pas les premières saisons, mais celle un peu après.
Oui.
Maïté, si tu étais une émotion? Elle bug.
Je bégaye. Une émotion, la colère.
La colère? Oh, pourquoi?
Parce que je pense qu'il y a des colères saines et qu'aujourd'hui on a pas mal de raisons d'être en colère et que ça veut pas forcément dire être violent, mais que il faut savoir se mobiliser, réagir, être en colère.
C'est beau. Tu te souviens Ségolène Royal en 2007 qui disait à Nicolas Sarkozy dans le débat présidentiel: il y a des colères saines.
Oh merde, je pensais pas que j'allais citer direct du Ségolène Royal, ça me rajeunit pas tout
voilà,
ça.
Voilà, maintenant on sait comment politiquement tu te situes.
Oh non.
Lucas, si tu étais une mauvaise habitude?
Me lever tard.
Ouais. Ponctuel, en retard à l'école?
En retard.
Maïté, ouais. Tu confirmes?
J'avoue que je suis pas toujours très à l'heure non plus, donc je ne vais pas lui jeter la pierre.
Bah déjà, vous étiez à l'heure pour l'émission et c'est très bien. Maïté, allez, si tu étais un gros mot?
Putain de merde.
Lucas, je vais pas te poser la question parce que je sais que ces mots te choquent, bien évidemment.
Non.
Tu veux nous dire un petit gros mot?
Franchement, si j'étais un gros mot, je serais bordel de pute.
On va en faire un petit dernier. Maïté, si tu étais un animal?
Une baleine.
Une baleine? Mais pourquoi donc?
Pourquoi une baleine? Parce que c'est l'impératrice des mers. C'est un mammifère qui évolue donc dans les océans, les eaux, qu'il faut protéger. Voilà, qui n'est pas assez magnifié à mon sens, mais on devrait un peu plus penser aux baleines chaque jour.
Je pense qu'on y pensera tout à l'heure, à la fin de l'émission.
Absolument.
Quel suspense. Vous venez nous voir donc, Maïté, Lucas, pour nous parler des années bac, la série d'articles sur le site Les Jours, qui est un média en ligne fondé par des anciens journalistes du site Libération et qui propose des enquêtes et des immersions journalistiques sous forme de feuilleton. Maïté, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu Les Jours, le concept?
Lesjours.fr, l'idée c'est de traiter l'actualité en série, comme les séries qu'on regarde à la télé ou sur son ordinateur. Donc de produire des épisodes, et ce qui veut dire suivre au long un sujet et en immersion, voilà, en le déclinant via des personnages qu'on suit régulièrement, tels que Lucas qui nous accompagne ce soir.
Ouais.
Qui est donc un élève de la classe du lycée Mounier à Grenoble que je suis, et son délégué de classe aussi.
Le délégué de la première G4. Effectivement, tu étais plutôt bon élève toi d'ailleurs au lycée, Maïté?
Ouais, j'avoue, j'étais pas parmi les derniers, mais j'étais pas toujours très sympathique avec les enseignants.
Ah, une rebelle?
Un petit peu. Déjà en colère.
Déjà en colère, mais avec des colères saines, toujours.
Exactement.
Et donc, qu'est-ce qui t'a amené, 20 ans plus tard, après avoir passé ton bac, à suivre le lycée Mounier?
Eh bien, la proposition des jours.fr, Raphaël Garrigos, le rédacteur en chef, m'a appelé pour me proposer de suivre de l'intérieur la réforme du bac. C'est un super projet, c'est une vraie chance en tant que journaliste de pouvoir s'ancrer sur un terrain, de pouvoir y revenir, de créer des liens. De raconter au long, donc j'ai tout de suite dit oui, et nous avons trouvé le lycée Mounier, nous sommes passés par la case autorisation du rectorat, qui est toujours une sorte de parcours des combattants, et passé cette barrière, nous voilà débarqués à Mounier.
Très bien, alors comment ça se passe cette immersion au quotidien? Est-ce que tu suis les cours, les récrés? Est-ce que tu viens de temps en temps? Est-ce que tu es tout le temps là au fond de la classe? Comment ça se passe?
Alors je suis pas tout le temps là au fond de la classe, je suis là régulièrement. Les portes m'ont été complètement ouvertes par le proviseur du lycée, Monsieur Sergi.
Ouais.
C'est ce qui est plutôt chouette. Je suis pas du tout chaperonnée comme on peut l'être sur d'autres sujets. Donc voilà, je viens de temps en temps, pas régulièrement au même cours. Je suis venue déjà un cours d'histoire géo, un cours de sport. Ça dépend de ce qu'on veut raconter et de l'actualité de la réforme aussi.
Ouais.
Là, la prochaine actualité pour les lycéens, ça va être les E3C. Donc les épreuves de contrôle continu pour les non-initiés. qui vont commencer à mouiller le 21 janvier, donc du 21 au 24 janvier. C'est des sortes de partiels, en fait, enfin, ceux dont se défend le ministère de l'Éducation, évidemment. Mais voilà, pendant 4 jours, ils vont plancher sur certaines matières. Ils le referont en fin d'année, ils le referont en terminale, et ça constituera une des bacs du note.
Une des notes du bac, exactement. Lucas, comment m'a été au lycée? Plutôt sympa
Oui, très, 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 non, mais elle est à l'écoute, elle est très sympa, oui.
Très sympa, ouais. Un peu relou parfois ou pas?
C'est pas mon avis, mais moi, pour moi, non.
C'est gentil.
C'est très gentil, ça. Combien tu l'as payé, Maïté? Je plaisante.
Il a pas voulu manger avec moi à la cantine pour l'instant, quand
Et
même.
Et ça, tu le racontes dans l'épisode de Noël, je crois.
Absolument, le repas de Noël à la cantine. Voilà, un autre moment que, du coup, j'ai raconté.
Ouais. Moi, je trouve ça intéressant comme démarche, vraiment, le fait voilà, d'aller au lycée, comme ça. Est-ce que ça t'a choqué? Est-ce que tu te dis, en 20 ans, le lycée, ça a beaucoup changé ou pas?
Non, pas tant que ça. Et ce qui change pas, et ce que je trouve vraiment, vraiment chouette, c'est qu'il y a toujours une grande bienveillance vis-à-vis des jeunes, quelles que soient les équipes, que ce soit les profs, l'administration. Il y a vraiment ce côté d'en faire des futurs citoyens. Ça n'a pas changé par rapport à mes années lycée. Après, j'ai tendance à trouver que les lycéens que je suis ne sont pas très politisés. Je l'étais plus où j'ai commencé à l'être à leur âge. Mais voilà, je n'oublie pas que je suis dans un lycée, une classe en particulier. Et l'idée, ce n'est pas de généraliser, c'est vraiment de raconter leur histoire à eux en particulier.
Alors, pour décrire un peu le lycée Mounier, donc pour ceux qui sont de Grenoble, alors c'est facile. Vous prenez le tram A et vous descendez à l'arrêt Mounier, vous tournez votre tête et vous arrivez au lycée Mounier. C'est tout.
Ouais, c'est bien résumé.
Alors, les élèves du lycée Mounier, ils viennent de deux collèges, ce qu'on appelle réseau prioritaire d'éducation, donc les ex-ZEP, et d'un collège un peu plus UP avec de nombreux élèves qui sont au conservatoire. Comment ça se passe, le mélange?
Moi j'ai l'impression que ça se passe bien, mais je pense que Lucas peut-être plus nous répondre, parce que tu croises des gens que tu avais vus au collège et d'autres qui viennent d'ailleurs. Est-ce que tu as l'impression que ça se mélange bien?
Oui, il y a vraiment une bonne cohésion de groupe, je trouve. Non, vraiment, en fait, il y a des groupes, mais qui sont pas... Il y a des groupes qui peuvent venir de certains collèges, de certains... peut-être même de certains lycées. Mais tout le monde s'entend avec tout le monde. On a tous son groupe. Moi, je sais que je viens de Munch, donc forcément, j'ai des amis qui viennent principalement de Munch. Après, moi, je m'en suis fait d'autres qui viennent d'ailleurs.
Munch, on peut préciser que c'est le collège qui, justement, est en lien avec... où il y a beaucoup d'élèves du conservatoire, hein, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
C'est ça, ouais. Maïté, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'historique du lycée Mounier, en quelques phrases?
Le lycée Mounier, ça a toujours été une sorte de laboratoire culturel, parce que justement, si les élèves du collège de Munch, qui ont fait le conservatoire, viennent à Mounier, c'est qu'on y propose pas des filières particulières, mais il y a une attention portée à la culture. Il y a notamment l'option art, qui est assez importante. C'est un lycée de ville qui a la particularité de ne pas être complètement au centre-ville, qui est un peu à la limite avec les quartiers, donc effectivement qui est une sorte de sas, on va dire, entre des populations qui se mélangeaient pas forcément jusqu'au collège, quoi.
Ok, d'accord. Et justement, cette histoire, ce côté un petit peu artistique, je crois que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, je crois, dans le lycée.
Ouais, complètement. Ça date des années 70. La Vaudan, qui a marqué la culture à Grenoble, il faisait déjà des choses. Le lycée a un arrêt de tram de la MC2, donc la Maison de la Culture de Grenoble.
C'est ça.
Il y a beaucoup de sorties qui sont organisées. Un des CPE en lien avec la documentaliste organise des cycles de cinéma.
Ouais.
Donc, y a vraiment beaucoup de choses qui sont proposées à des gamins qui peut-être avaient déjà cette proposition culturelle dans l'environnement familial, et à d'autres qui l'avaient peut-être moins, et ça leur permet à tous de pouvoir s'enrichir de la même manière. Et c'est quelque chose auquel tient vraiment le proviseur monsieur Sergi, qui a commencé sa carrière à Marseille, dans les quartiers nord, donc
ouais,
dans des zones d'éducation prioritaire également. Et il continue toujours sur le même chemin. Une autre caractéristique, c'est qu'à Mounier, il y a énormément de langues étrangères qui sont enseignées.
Ouais.
Le chinois a été perdu cette année, mais sinon, il y a du turc, de l'arabe.
Du russe, je crois aussi.
Du russe. Ouais. Enfin, voilà, c'est une offre qui s'adresse à tout le monde, et qui, du coup, fait venir aussi des élèves ailleurs ou de Grenoble, ou même de l'agglomération, voire d'autour. Il y a dans la classe de Lucas, il y a un deuxième Lucas, qui est aussi un de mes personnages, qui lui vient du Trièves. Donc qui est le massif, la montagne. Enfin, dans le sudo, je montre un sens qui est pas du tout le bon. Hein, j'ai un mauvais sens de l'orientation, mais bref, c'est une montagne qui a une demi-heure de Grenoble à peu près, et voilà, qui est venue là pour l'option art notamment.
Et c'est bien que tu aies eu l'intelligence de l'expliquer sans me demander de le faire, parce que j'aurais pas été capable de le faire proprement. Bravo Maïté, pour nos auditeurs qui ne sont pas de Grenoble, puisque nous sommes écoutés dans le monde entier, même au Chili, figure-toi.
Ah ouais.
Ouais. Pas par les Chiliens, par des Français, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Mais tant mieux que tu ne nous demandes pas de parler en espagnol, parce que justement, Lucas a révisé l'espagnol pour les E3C pendant les vacances et il me disait que c'était encore pas tout à fait gagné de s'exprimer.
Ah, buenas noches, señor. ¿Cómo está? Me llamo Amin.
Muy bien, muy bien.
Baila, 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 bamba, se necesita una... Bref. Est-ce que c'était facile, justement, tu te parlais du proviseur, monsieur Sergi, Joseph Sergi, c'était facile d'avoir son accord, l'accord du lycée, l'accord du rectorat, les autorisations, comme tu dis?
Alors, l'accord de Joseph Sergi, je l'ai eu très rapidement parce que c'est le premier que j'ai contacté. Parce que le proviseur n'est pas d'accord ou favorable à ma venue, ça ne sert à rien de forcer les choses.
Ouais.
Donc, lui, il était tout de suite partant parce qu'il a vu ça comme une autre forme d'ouverture culturelle. Et voilà. Après, il y a toujours les stades de l'administration, la communication, elle est contrôlée. Donc, c'est plus qu'il faut être patient. On envoie un mail, on n'est pas sûr qu'il est bien arrivé, on appelle trois fois, on rappelle, etc. Donc en gros, moi j'ai commencé les démarches début juillet, puis j'ai une réponse, je crois, le 24 août, donc à quelques jours de la rentrée. Donc voilà, quand on a le hockey, il faut y aller, quoi.
Ouais, et si t'avais pas eu le hockey, qu'est-ce qui se serait passé ?
Eh ben, j'aurais fait ma relou, ce qui est quand même une des qualités du journaliste, c'est de ne pas savoir lâcher, et on y serait arrivé. Bravo. Quand même, j'espère.
Mais oui, mais vous y êtes arrivé et c'est très bien puisque vous nous offrez une très belle série d'articles. On va continuer à en parler et on va rentrer plus dans le détail justement de cette réforme du bac. Mais pour l'instant, c'est l'heure de l'instant éloge. Lucas, alors t'es le délégué de... Oui. J'ai coupé un peu net la leçon, mais c'est pas grave. Lucas, t'es délégué de la classe, de la première G4. Il paraît que tu voudrais devenir journaliste, c'est vrai ?
Bah, le métier de journaliste m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas trop encore dans quelle spécificité me diriger.
Lucas, parle bien dans le micro, s'il te plaît.
Oui, vraiment, le journalisme, c'est vraiment un milieu qui m'intéresse beaucoup.
Eh bien, bravo à toi. Tu vas donc passer de la popularité du délégué de classe à la détestation du public, ou tout du moins à la méfiance. Et oui, d'après un sondage récent, alors je ne sais pas si tu sais, mais près de 2/3 des moins de 25 ans ne ferait pas confiance aux informations qui sont données, notamment à la télévision. Alors évidemment, il existe toutes sortes de journalistes, hein. Il y a Maïté que tout le monde adore, sauf les puissants, bien évidemment.
Oui, c'est ça, tu as bien cerné.
Mais différents journalistes qui peuvent être détestés d'une façon ou d'une autre. Et pour répondre à la question « Les journalistes sont-ils détestés ?», un documentaire qui s'appelle « Détester avec un point d'interrogation » a été produit par la société TSVP et l'École supérieure de journalisme de Lille. Et ce documentaire dessine six portraits de six jeunes journalistes qui ont 25-30 ans. Et ces portraits vont être projetés dans des collèges et des lycées pour parler justement de leurs ressentis et savoir est-ce qu'ils sont détestés ou pas. Le documentaire suit par exemple Majid, qui est reporter à France Info, la chaîne du service public. Aude de la chaîne YouTube Aude What the Fake, je sais pas si ça vous dit quelque chose.
France TV, ouais, l'autre, moi.
Non.
Eh ben, c'est pas grave. Mais le cas le plus flagrant qu'on pourrait avoir en tête, ce sont évidemment les chaînes d'information type BFM TV, CNews, tout ça, dans leur couverture des gilets jaunes.
Gilets jaunes, moi gilets jaunes, t'aimes les gilets jaunes, faut danser petit.
Et l'un des portraits suit ainsi Guillaume, 27 ans, reporter en CDD à BFM TV, qui couvre les manifestations de gilets jaunes. Et autant dire que c'est très 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 tendu. Alors on l'écoute, et il est accompagné du commentaire de la réalisatrice des portraits, la jeune journaliste aussi, Joséphine Duteuil, avec laquelle j'ai pu échanger via Skype.
Et moi, ce que j'ai vu plusieurs fois sur cette journée-là, c'était des gens qui venaient directement le voir en lui disant « Écoute, tu bosses pour qui ? Tu bosses pour BFM ?» Et il était obligé de leur mentir.
C'est devenu dur assez rapidement de bosser avec eux parce qu'on ne peut plus dire pour qui on travaille. Quand quelqu'un vient nous demander « Bonjour, vous travaillez pour BFM TV ?» Non.
Vous entendez les lignes ? BFM, cassez-vous !
Le moment le plus frappant, c'était probablement donc, cette interaction-là qui se passe, qui s'est répétée plein de fois. Mais là, le gars lui dit, bah écoute, c'est étrange parce que là, regarde, je suis sur le live de BFM, donc il sort son téléphone, effectivement, il suivait l'antenne. Et l'angle de la caméra, bah, c'est exactement là, en fait. Tu vois, là on est là, et bah, ça donne sur le même endroit. Donc, t'es sûr, c'est pas toi, hein, et tout. Et donc, le mec lui dit, non, moi, ma caméra est éteinte, enfin bref, panique.
Eh oui, c'est la panique, c'est le stress. Alors pourquoi une telle hostilité? Pour Guillaume, il le dit dans le documentaire, c'est sans doute que les chaînes d'information en ont trop fait sur les vitrines cassées, les violences, les dégâts causés par les manifestations des Gilets jaunes. Et c'est ce que m'a expliqué la réalisatrice toujours, Joséphine Dutheil.
Notamment sur les tout derniers mois, les dernières années, sur les chaînes d'info en continu, tu as eu une tendance à traiter les mouvements sociaux par l'angle des dégâts, l'angle sécuritaire et l'angle de la violence, qui a été excessif. Donc ça alimente la défiance parce que tu parles pas du fond et que tu es sur un mode qui est quand même proche de celui de la peur quoi, et de l'intimidation.
Et donc ne pas parler du fond, c'est le propre des éditorialistes sur les chaînes d'information qui sont un poil condescendants. Petit best-of, c'est cadeau, c'est pour moi, c'est aussi de la part du site Acrimed.
Le mouvement est à la fois radicalisation, ça on le savait depuis le mois de décembre, mais de crétinisation aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'on est dans le n'importe quoi total.
Je trouve qu'on a le droit de critiquer la médiocrité de certains leaders des Gilets jaunes sans se voir taxé comme ça de mépris classe ou d'élitisme.
Je sais que ça faisait des tests de QI à l'intérieur des manifestations, il n'y en a pas grand monde.
Je dis simplement.
C'est pas fou.
Oui. Soyez pas méprisants non plus, parce que ce genre de déclaration ne calme pas les choses.
C'est moi quand je vois ce genre de
déclaration. Oh ben là, on en est plus là.
Les discours officiels, on peut dire officiels, des deux leaders les plus partagés, leurs propos sont absolument débiles. C'est-à-dire qu'ils sont incommentables. Moi, je me penche sur leurs textes, sur ce qu'ils disent. Et là, il ne s'agit pas d'orthographe, il s'agit du contenu. Mm-hmm. C'est débile. C'est-à-dire que ça n'a ni queue ni tête, ils ne finissent pas leurs phrases. Et ça n'a aucun sens. C'est pas simplement conspirationniste. Donc, ils sont totalement critiquables. Ils sont même méprisables.
Voilà. Maïté, est-ce que ça t'inspire une réaction, déjà, ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, je pense que ces propos sont vraiment le fait de gens qui ont le cul dans le beurre dans des studios à Paris et qui font pas trop de terrain, envie de dire. Voilà.
Et justement, ce qui est intéressant, c'est ce que dit aussi Guillaume dans le reporter de BFM TV. Il explique aussi que justement, c'est à cause de ces éditorialistes-là aussi que lui, sur le terrain, c'est très difficile pour lui, surtout avec l'image BFM TV. Heureusement qu'il réussit parfois à être astucieux. Toi, comment ça s'est passé, justement, puisque tu as suivi également les Gilets jaunes du rond-point de Voreppe, au nord de Grenoble. Est-ce que tu as été accepté facilement? Comment ça s'est passé?
Alors, effectivement, très, très vite, après le début du mouvement, donc le 17 novembre, lesjours.fr me sollicite pour aller sur un rond-point, et l'objectif est le même, comme la plupart des séries, c'est de faire de l'immersion. Donc déjà, ce parti pris de ne pas attendre, de ne pas regarder de haut en se disant est-ce que ça vaut le coup, on va déjà voir ce que font d'autres médias, etc. Mais de se dire on y va et tu restes sur place, déjà ça change la donne. D'arriver en se présentant et en disant bah, moi j'ai le temps, en fait, je vais passer une première journée à blanc, on va juste discuter, on verra ce qu'il en sort. Voilà, le fait aussi que ce soit un site qui soit moins connu que les grands médias télévisuels, ouais, ça allait plus de leur parler aussi du fait que ce soit indépendant. Que ce soit autofinancé par les abonnements. Ça, c'est quelque chose qui, du coup, leur parlait beaucoup. La première approche, elle n'a quand même pas été facile, hein, clairement, parce qu'il y a des journalistes qui étaient déjà passés avant moi pour faire des choses assez rapides.
Comment ça s'est passé, justement, cette première approche ?
On m'a dit que les journaleux, on les aimait pas trop. Et puis on m'a dit, et qu'est-ce qui nous dit que t'es pas quelqu'un des RG ? Donc là, j'ai sorti...
RG, les renseignements généraux.
Les renseignements généraux, que je n'étais pas de
DGSI.
De la police. Donc du coup, j'étais accompagnée d'un photographe, Pablo Chignard. Du coup, je leur ai sorti mes papiers d'identité. Donc c'était la deuxième fois dans ma carrière que je devais justifier de mon identité devant des civils. La dernière fois, c'était à Notre-Dame-des-Landes.
D'accord.
Voilà, donc...
Avec des zadistes aussi ou...
Ouais, avec des zadistes, ouais.
Ouais.
Et puis, du coup, voilà. Après, j'ai gentiment fait remarquer que si je leur demandais l'inverse, ils ne le feraient pas. Ils ne sortiraient pas leur papier.
Ouais.
Et puis là, je suis... en fait, tout ça s'est passé avec Jackie, qui est devenu un de mes personnages principaux. Et puis, du coup, je suis restée. Je suis restée une première journée, je suis restée une deuxième journée, je suis venue une troisième journée, puis j'ai fait le premier papier qui a été mis en ligne. Et ensuite, je me suis débrouillée pour l'imprimer.
Ouais.
Et puis, je suis revenue avec le papier et puis je leur ai fait lire en leur disant, voilà, vous m'avez fait confiance pour rester. Voilà ce que je raconte. Et en fonction de... C'est ce qu'on s'était un peu dit avec Jackie, en fonction de ce que lui renvoyait ce miroir, est-ce que je pourrais continuer à venir ou pas? Et en l'occurrence, c'était oui. Et ce qui est vraiment important, ce que je tiens à souligner, c'est que j'ai jamais eu l'impression de, enfin, tu vois, de me trahir, de faire de la lèche ou de
oui,
raconter un
parce
truc.
Que...
Enfin, de voilà. Évidemment, il y a toujours une forme de bienveillance pour le sujet, mais sans gommer les trucs, ça reste vraiment du reportage. C'est-à-dire que c'est de l'observation. Assumer, c'est par mon prisme, mes yeux, il y a mon nom en bas du papier. Tu vois, le deal, il est clair.
Avec ton esprit, ton ironie parfois, c'est, on retrouve vraiment ta patte, quoi.
Et pour le coup, ça a fonctionné. Enfin, voilà, j'ai pas eu l'impression de particulièrement travestir la réalité. Je l'ai simplement raconté comme je l'ai vécu et ça a fonctionné. Donc, je suis revenue régulièrement. Au bout d'un petit moment, j'avais même mon petit surnom.
C'était quoi ton surnom ?
Cahier jaune.
C'est
parce
mignon.
Que j'avais un cahier jaune et donc il y en a un qui a dit mais en fait voilà. Et
t'avais un cahier jaune en rapport avec les gilets jaunes ou c'était une pure coïncidence?
Non, c'est que j'avais fini mon dernier cahier, celui que j'ai pris était jaune et du coup voilà, c'est devenu la blague. Et le retour que j'ai eu en fait, c'est qu'il me disait c'est bien, c'est que tu racontes vraiment ce qu'on te raconte. Tu changes pas les citations déjà, ce qui me semble un peu essentiel dans le boulot de journaliste. Et puis tu commentes pas, t'en rajoutes pas, voilà, tu racontes juste le truc. Après, de nouveau, moi, j'ai l'impression que c'est toujours via mon prisme, mon expérience, etc. Mais
bien sûr.
Voilà.
Bah justement, ce qui est intéressant aussi dans ton article, il y a un moment qui m'a un peu, que j'ai trouvé vraiment intéressant, où justement, on voit un peu le décalage qu'il peut y avoir entre la presse, les journalistes, qui sont un peu forcément peut-être plus liés au pouvoir politique, et les gilets jaunes qui, eux, s'en balèquent. À un moment donné, je cite ton article, un de tes articles, mardi midi, quand le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé le report de la taxe carbone, les gilets jaunes de vos reps étaient penchés sur le jambon qu'un gars venait d'apporter. Bonne patte, quelques-uns ont accepté de se mettre à l'écart pour écouter le discours du « sbire de Macron », entre guillemets, afin qu'une journaliste de la radio locale fasse, entre guillemets toujours, un son de leur réaction à chaud. Sans ça, ils seraient bien restés à la pizza qui venait d'arriver, découpée en lichettes pour que tout le monde ait sa part. Je trouve ça intéressant quand même, vraiment le décalage qu'il peut y avoir entre les journalistes pour qui le discours d'Edouard Philippe est important et les gilets jaunes qui en ont rien à péter.
Complètement. Et c'est là, tu vois, je reviens à nos éditorialistes cul dans le beurre. C'est que t'as une rédaction en chef qui se trouve souvent à Paris qui dit pour diversifier un peu, on va pas faire juste nous devant notre télé, dans notre rédaction, qui regardons le discours du Premier ministre. Donc on va faire le discours du Premier ministre qui est suivi par les gens à travers la France. Donc tu trouves un rond-point où il y a des gilets jaunes qui suivent le discours du Premier ministre et puis tu prends leur réaction. Sauf que la vérité, c'est quand moi j'arrive sur le terrain, en l'occurrence, je ne parlais pas du rédacteur en chef des jours.fr.
Monsieur Garrigos, qu'on embrasse.
Absolument, absolument. Donc les journalistes arrivent et puis ils se trouvent face à la situation qui est qu'en fait, ils n'ont aucune intention d'écouter ce discours-là.
Ouais.
Donc tu fais quoi dans ces cas-là? En l'occurrence, moi j'appelle Raphaël en lui disant ils n'ont aucune intention d'écouter le discours. Donc il me dit très bien, raconte ce qui se passe alors. Et en l'occurrence, il y avait un méga jambon qui était arrivé et puis de la pizza et puis voilà quoi. Et du coup, moi j'ai vu cette nana arriver d'une radio locale, il fallait qu'elle ramène un son. Donc elle était gentille, ils étaient gentils aussi, ils l'ont dit bon allez d'accord et tout. Elle leur a mis le discours sur son téléphone, elle avait son enregistreur de l'autre côté, elle captait les réactions. Mais tu vois, finalement on est dans une fabrication là de l'information. Et c'est ça aussi le problème, c'est qu'à partir du moment où ça va plus que dans un sens, c'est-à-dire les rédacteurs en chef, les éditorialistes se font une idée préconçue et veulent que le terrain... épouse en fait cette préconception, c'est problématique. Normalement, c'est le terrain qui échange avec le haut et qui lui dit écoute, moi, il se passe ça, ok, d'accord, on va partir sur ça, on raconte ça parce que c'est ce qui se passe, etc. Tu vois, et cet échange, il s'est distendu, et notamment avec l'info en continu, clairement.
Oui, non, mais et justement, ces journalistes-là, comme tu dis, enfin, ces journalistes gilets jaunes plutôt, ce qui est intéressant avec les jours, c'est que du coup, tu les suis un petit peu sur le long terme et tu les as revus un an plus tard dans un article qui est sorti il y a assez récemment, du coup. Comment ça s'est passé, les retrouvailles?
Chouette, c'était chouette parce que ce que je raconte au début de l'article, c'est que finalement, on a passé quasiment plus de 3 mois ensemble. Tu crées des liens et du coup, après, il n'y avait plus de nécessité de se recroiser. Et puis bah, chacun a pris le temps à sa manière de me raconter ce qu'il était devenu depuis un an. En l'occurrence, Elodie, elle a décroché du mouvement.
Alors Elodie, on peut préciser qu'elle était, alors je crois, elle travaille dans l'immobilier, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Elle bosse dans un syndic. C'est une maman de deux jeunes enfants. Ouais. Elle explique notamment qu'elle a eu, il y a eu beaucoup de fatigue, qu'elle s'est beaucoup investie, qu'elle a été déçue aussi par la manière dont le mouvement s'est transformé. Notamment, elle cautionnait pas les actions de violence qu'il y a pu avoir. Et puis Jackie, un autre personnage qui est lui retraité et qui lui du coup a transformé en fait cet élan de manifestation en s'engageant dans l'associatif et qui continue à être sur un rond-point, un autre rond-point du coup, parce que Vorep a été démantelé assez vite.
Ouais.
Voilà, donc tu vois, deux destins différents, mais qui raconte ce qu'est aussi le mouvement des Gilets jaunes, ouais, au-delà des images de violence qu'on a vues à la télé. Parce que eux, ça n'a jamais été des violences, ce n'était pas leur truc, ils ne voulaient pas bouger de leur rond-point, ils sont restés en local. Et puis voilà, mais c'est aussi des gens qui ont vraiment contribué au débat, qui n'étaient pas des gens méprisables ou crétins, comme certains
comme
ont
on
pu
a,
le dire. Quoi.
Comme on a pu l'entendre, on a pu entendre tout à l'heure. Juste sur une phrase, un petit mot que tu as dit. Tu as dit, Jackie, c'est un personnage. Les personnes que tu interviews dans les jours, tu les appelles des personnages. Lucas est un personnage aussi.
Ouais, Lucas, c'est un personnage. Le terme, c'est aussi un terme technique, nous, dans notre vocabulaire, dans les échanges avec les jours. Mais c'est aussi une manière de mettre une forme de distance. C'est un compagnonnage, mais on reste dans notre rôle. Moi, je reste journaliste. Je viens le voir pour faire un article à la fin. Tu vois, la transaction, elle est claire.
Ouais.
Ça n'empêche pas que peut-être ça deviendra des amis ou des fréquentations, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans l'idée, il y a quand même cette mise à distance.
Lucas, est-ce que ce qu'on vient de dire justement là, sur le journalisme, les gilets jaunes, tout ça, ça t'inspire une réaction? Ça t'inspire quelque chose ou pas?
Je savais que le journalisme, on va dire, il faut s'attendre à ce genre de polémique, on va dire.
Ouais.
Mais ce n'est pas pour autant que, on va dire, ça va me dégoûter du journalisme. Mmh. Non, vraiment, je sais que ça fait partie du métier de se faire détester ou peut-être même aimer, mais enfin, je pense que ça fait partie du métier. C'est comme la politique. Hein. On peut pas
plaire à tout le monde.
On peut pas plaire à tout le monde. Non. Donc du coup, non, je sais ce qui se passe. Je m'y attends, on va dire. Si par exemple plus tard, ouais, je finis dans le journalisme, je m'y attends, mais c'est pas pour autant que ça va me déplaire.
Alors, je vous propose qu'on fasse une petite pause. Il est 20h36. 20h36, c'est bien ça? Oui. Non, 20h37 maintenant. Eh ben, bravo. Sur News FM, on va écouter, pour une fois, c'est moi qui ai choisi la chanson. C'est moi qui ai choisi le thème de la chanson. Non, je refuse ce que je dis. Non, voilà, j'ai choisi la chanson, et pour une fois, elle est en rapport avec et le thème de l'émission, et la ligne éditoriale de News FM en matière de musique, qui est plutôt culture urbaine. On va donc écouter School Spirit, admirez mon accent, de Kanye West, et on se retrouve dans 3 minutes.
School Spirit, Alpha Number. Step, Omega step, Kappa step, Sigma step, gangsters walk, pimps gon' talk, ooh, hecky nah, that boy is raw, aka step, Delta step, SGO step, Zeta step, gangsters walk, pimps gon' talk, ooh, hecky nah, that boy is raw. I'ma get on this TV, mama. I'ma put this down. I'ma make sure these light skinned niggas never, ever, never come back in style. Told them I finished school and I started my own business. They say, oh, you graduated. No, I decided I was finished. Chasing y'all dreams and what you got planned. Now I spit it so hot, you got tan. Back to school and I hate it there, I hate it there. Everything I want, I gotta wait a year, I wait a year. This nigga graduated at the top of our class. I went to cheesecake, he was up for the month and waited there. Alpha step, Omega step, Kappa step, Sigma step, gangsters walk, pimps gon' talk. Ooh, hecky nah, that boy is raw. AKA step, Delta step, SGO step, Zeta step, gangsters walk, pimps gon' talk. Ooh, hecky nah. I got a Jones like Nora for your Sora. Bring Mora, them girls I seen in the Aurora. Tammy, Becky, and Laura, Aura, Shirley. I'm tryna hit it early, like I'm in a hurry. See, that's that Doobie Kane, a young Pootie Tang, Tippy Tow. Rockefeller chain, yeah, that's my rapper style. Rosary piece, yeah, that's my Catholic style. Red and white ones, yeah, that's my Kappa style. And I ain't even pledged. Crack my head on the steering wheel, and I ain't even dead. If I can go through all that and still be breathing, it's been over, I'm here for a reason. Out. Alpha step, Omega step, Kappa step, Sigma step. Gangsters walk, pimps gon' talk. Ooh, hecky no, that boy is raw. AKA step, Delta step, SGO step, Zeta step. Gangsters walk, pimps gon' talk. Ooh, hecky no, that boy is raw. I feel a woo coming on, cuz I feel a woo coming on, cuz. There was. I feel some woos coming on, cuz. A couple woos coming on, cuz. There they was. I feel a woo coming on, cuz. I feel a woo coming on, cuz. There was. A couple woos coming on, cuz. A couple woos coming on, cuz. There they was.
Vous êtes toujours sur News FM, le 101.2, et vous écoutez Open By.
Hip Hop, R&B,
Funk, tu kiffes,
c'est News FM.
Quel jingle. Donc vous pouvez nous suivre sur le 101.2 FM sur Grenoble et dans le monde entier sur internet, radio-newsfm.com. Et en podcast dès demain sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, toutes vos applications de manière générale. Dans Open By ce soir, nous sommes avec la journaliste Maïté Darnaud, ainsi que Lucas, élève de la et délégué de la classe de la première G4 au sein du lycée Emmanuel Mounier à Grenoble. Avec vous deux, nous allons parler de la réforme du baccalauréat qui a été mise en place cette année. Petit rappel, petite présentation de la réforme avec nos amis de France 3 qui ont eu l'incroyable idée de rendre ce reportage libre de droit.
L'an prochain, tout change pour ces élèves de seconde, fini les filières traditionnelles SES ou L. En première, ils auront 16 heures d'enseignement en tronc commun, avec entre autres du français, de l'histoire géo, des langues vivantes et du sport. Pour le reste, ce sera à la carte. Faire de la philosophie ou de la science politique dès la première, ce sera désormais possible. L'élève devra choisir 3 matières majeures parmi une dizaine existantes.
Une réforme avec un objectif simple, tellement simple, comme l'explique Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale au Sénat en octobre 2018.
L'objectif de cette réforme pourrait se résumer en une formule. En réformant le baccalauréat, nous voulons que, en préparant le baccalauréat, les élèves préparent ce qui les fait réussir après le baccalauréat.
Jean-Michel Blanquer, qu'on appelle aussi au Parlement, Jean-Michel Éloquence, vu ses formules. Maïté, qu'est-ce que tu as compris, toi, de la philosophie de la réforme, sans rentrer dans tous les mécanismes dont on va parler après?
L'idée, c'est donc de laisser plus le choix aux élèves, de casser les traditionnelles filières S, ES et L, sachant que la filière S a toujours été considérée comme celle des élites. Pour réussir dans la vie, il fallait faire S. Ce qui, du coup, a obligé un certain nombre d'élèves quand même à se taper des maths, de la physique et de la chimie, alors qu'après, ils allaient faire complètement autre chose ailleurs à la fac. Voilà. Et aussi d'anticiper l'arrivée à la fac, donc une forme de pré-spécialisation. Voilà.
Ouais. Et justement, tu parlais des maths tout à l'heure. Je crois, Lucas, toi, t'es pas très bon en maths. Hein. Les maths, c'est pas ton truc.
Non, pas du tout, du tout, du tout.
Tu peux nous redire les spécialités que tu as choisies?
Cette année, j'ai pris SES, donc sciences économiques et sociales, histoire géo, sciences politiques et anglais. Littérature, langue étrangère, anglais.
D'accord. Toi, Lucas, qu'est-ce que tu pensais un peu de la réforme, de cette idée de la réforme, quand tu étais en seconde avec tes camarades? Qu'est-ce que vous en pensiez avant, justement, au moment où de piquer les autres, de choisir les options qu'est-ce que vous en pensiez?
Alors, qu'est-ce que nous en pensions? Eh ben,
toi, déjà.
C'était toujours négatif. Mais moi, personnellement, je savais un peu dans quelle branche je voulais aller, enfin, me diriger. Donc, moi, j'étais pas trop contre la réforme du bac. Je comprenais les avis des autres parce que c'est pas forcément facile à 15 ans de devoir décider de ce qu'on veut faire plus tard. Mais,
moi, dans le choix des options, tu veux dire?
C'est ça. Ouais. Dans le choix des options, c'était pour eux trop, on va dire, précoce. Et donc, moi, je savais déjà ce que je voulais faire à peu près, enfin, ce dont j'avais besoin. Donc ça n'a pas été très compliqué.
Et justement, Maïté, pour rebondir un peu sur ce que dit Lucas, hein, quand on lit les articles, on a l'impression qu'au départ, hein, les professeurs, le personnel éducatif sont un peu mi-figue, mi-raisin, est-ce que c'est un peu précoce, qu'il peut y avoir de la compétition entre les matières. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les impressions qu'il pouvait y avoir de prime abord.
Les impressions de prime abord, c'était de se dire que, certains, et ils le disent très peu ouvertement, parce que la loi Blanquer, elle introduit aussi une forme de contrôle de la parole des profs qui existait beaucoup moins avant, qui est de dire, est-ce que c'est pas un peu un plan social caché ? En gros, le fait de créer des spécialités, ça permet aussi de réduire les options. Et donc, à terme, ça va susciter une forme de concurrence, en fait, entre les différentes matières. On va pousser absolument des lycéens à choisir tel sujet parce que, comme ça, on est sûr d'avoir du boulot l'année prochaine. Ouais. Pour le faire très simple.
Bien sûr,
ça,
bien
ça a été une crainte quand même des profs. Elle existe toujours parce que, globalement, la réforme, ce que tout le monde nous dit, même de manière diplomatique, c'est qu'elle a été mise en œuvre beaucoup trop tôt,
ouais.
Une année trop tôt. Et que du coup, cette espèce de marche forcée, ça fait qu'on navigue complètement à vue. En l'occurrence, là, Lucas et ses camarades, ils ont dû choisir des spécialités, alors qu'on n'avait pas encore paramétré, on va dire, Parcoursup, qui est le logiciel qui permet de faire des choix et des demandes des candidatures pour la fac. Par exemple, si vous voulez faire designer graphique, il n'était pas encore établi au moment où eux ont choisi qu'il faudrait prendre art plastique, anglais et sciences informatiques, par exemple.
Ouais.
Tu vois, donc, il y a vraiment cette idée globale de naviguer à vue quand même.
Et justement, tu parlais justement de cette idée-là. Effectivement, le risque, c'est que les élèves se ferment des portes. Et toujours dans le reportage de François qu'on entendait tout à l'heure, il y avait des élèves de terminale à qui on demandait ce qu'ils pensaient de la réforme et ils avaient bien compris ça.
Ces élèves de terminale ne sont pas concernés par le nouveau baccalauréat, mais cette réforme les laisse perplexes.
C'est un enseignement peut-être plus libre, mais à la fois qui demande, qui va trop nous spécialiser et finalement peut-être fermer plus de portes que ce qu'il en ouvre. Et on ne sait pas trop ce que ça va donner, notamment peut-être avec plusieurs options, plusieurs spécialités qui permettront finalement d'ouvrir aucune porte, quoi, si elles sont mal arrangées entre elles.
Je suis totalement d'accord. Moi encore, je reviens sur moi, c'est-à-dire que moi, je pense
parle
que...
Parle de toi, Lucas, parle de toi.
Je pense que j'aurais pas trop de difficultés à... Enfin, je pense que j'ai pris des options qui sont en accord entre elles.
Ouais.
Après, c'est sûr, y a un élève de ma classe qui a pris des sciences et de l'art plastique. Enfin, là, on voit que ça coïncide pas trop. Hein, donc, c'est compliqué, mais je comprends totalement.
Ouais, moi je sais, moi personnellement, moi dans l'idée, fait de choisir comme ça des cours un peu différents, moi je trouve ça, enfin moi j'aime bien, l'idée. Mais et ce qui est intéressant aussi pour le coup, c'est que les élèves ont joué le jeu. Par exemple, il y a eu la moitié des élèves qui ont choisi des combinaisons de cours inédites qui correspondaient pas aux anciennes séries L, E, S, S, S et justement, c'est quoi les... Non, j'ai pas de question par rapport à ça.
mais moi, j'ai une réaction par rapport à ça, c'est que ce chiffre-là, il est donné par le ministère de l'Éducation nationale.
Ouais.
Ils te disent donc trois choix, une combinaison inédite. Mais là, de fait, ce que je commence à observer, c'est que tu as quand même... donc, il y a une des spécialités qui est abandonnée en fin de première. Donc, tu ne la gardes pas jusqu'au bac.
Et tu passes en anticipé.
Et tu passes en anticipé, tout à fait. Et c'est que du coup, en général, là, tout le monde a tendance à se dire qu'ils vont abandonner la troisième spécialité un peu chelou, qui détonne ou un truc comme ça. Et donc, du coup, tu vas retomber sur deux spécialités, en fait, elles qui sont cohérentes et classiques.
Type maths physique.
Voilà, exactement. Donc, type j'ai pris maths physique et puis art plastique. Tu peux être sûr que sur une éventuelle pression des parents... l'art plat, il dégage en terminale. Et donc, finalement, moi, dans le fond, je pense que c'est effectivement bien de leur laisser le choix, de les impliquer. Après, sans leur donner de vision, d'horizon, c'est quand même compliqué, quoi. Sans leur dire, si tu prends ça, ça et ça, on ne peut pas te garantir que ça ne te ferme pas la porte quand tu vas vraiment décider plus tard. Je trouve ça un peu dangereux quand même, quoi.
C'est un peu... ça donne pas de vision, ça rassure pas en tout cas.
C'est un peu acrobatique. Et déjà que Parcoursup a vraiment compliqué l'entrée à la fac, de rajouter une couche avec le bac, c'est sport, quoi.
C'est vrai qu'on a l'impression que les parents aussi, ils sont quand même assez inquiets.
Ouais, globalement, les parents sont super inquiets. D'ailleurs, les personnels du lycée Mounier me disaient qu'ils n'avaient jamais vu autant de gens aux réunions d'information. Et effectivement, il y a foule et les parents, ils ne comprennent pas tout. C'est quand même hyper technique. Moi, j'ai des fiches, je révise pour réussir à comprendre l'histoire de Coeb, de choses comme ça. Et ouais, c'est pas simple.
Et bien d'ailleurs, tu vas nous faire un exposé de 20 minutes pour nous expliquer tous les coefficients du bac. Non, je plaisante.
Je vais laisser Lucas le faire, qui des fiches.
Je plaisante.
La nana courageuse.
L'idée, c'est, voilà, si vous voulez les détails, vous allez sur Internet, vous les trouvez. L'idée, c'est plus d'avoir la démarche, de comprendre la philosophie de... la philosophie de cette réforme. Et une autre inquiétude des parents, justement, c'était le contrôle continu, les E3C. Lucas, ça veut dire quoi, E3C? Parle bien dans le micro, s'il te plaît.
Les E3C, c'est les épreuves communes de contrôle continu. oui, bah, c'est ça, en fait, c'est ce qu'on va passer durant l'année.
Ouais, et là, les premières vont arriver pour. Pas la semaine prochaine, mais celle d'après, je crois.
C'est ça.
Ouais. Stressé? Pas stressé?
Je sais pas trop parce que oui, je suis un peu stressée, mais je me dis en vrai si, enfin en passant le test, en vrai je me dis oula, ça va, c'est passé en fait. Mais sinon si j'ai quand même un petit stress.
Bah je pense que c'est normal. Maïté, toi que tu ressens un peu tu ressens le stress des élèves quand on lit les articles, quand on lit les commentaires justement du personnel éducatif. Ils ont l'air de dire que les élèves sont quand même beaucoup plus stressés, non ?
Ouais. Clairement, ce que me disent les profs, les CPE, je les ai trouvés crevés vraiment les premières G4 en décembre. C'est aussi un mois qui est fatigant pour tout le monde. Mais l'arrivée des premières notes, donc il y a eu le conseil de classe fin novembre. Donc déjà, être confronté à ses premiers résultats, c'est pas évident. Se dire qu'il faut tout de suite réviser pour les épreuves en janvier, c'est pas simple.
C'est pas simple et ça, les fêtes de Noël sont peut-être un petit peu...
J'espère ouais. Qu'ils en ont quand même profité, ouais. Mais il y avait de la révision dans l'air quand même.
Ah ça, forcément. À un moment, Maïté, t'écris « Improviser, entre guillemets, pour que ça fonctionne pour les élèves, c'est devenu le quotidien du proviseur de Mounier en 7 en 1 du bac Blanquer. » Et par exemple, tu donnes des exemples, hein, par exemple celui des livres scolaires qui sont quand même assez importants pour une première année du bac du coup. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire des livres scolaires qui ne sont pas arrivés à temps? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors ce qui s'est passé, c'est que la réforme, elle réorganise les filières mais elle transforme également les programmes.
Ouais.
Et qu'en gros, d'habitude, les éditeurs, ils ont un an pour pouvoir sortir les nouveaux bouquins. Là, ils ont fait le truc en 6 mois. Ils ont dû se dépêcher parce qu'il n'y avait rien de sûr. Quand enfin les bouquins sont prêts, sortis des presses, c'est rajouté une difficulté. La région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis cette année, offre les bouquins aux lycéens. Ce qui est une très chouette initiative, ce qui permet souvent d'enlever un poids financier à pas mal de familles.
Ouais.
Sauf que la logistique, ça se rôde. Et là, ils ont un peu eu du mal à la roder. Et donc, du coup, il y a eu des aberrations, type à Mounier, ils ont reçu, si je me souviens bien, le 120 bouquins d'allemand, alors que t'as que 60 germanistes. Enfin, je sais plus quels sont les chiffres exacts qui sont dans l'article, mais voilà. Il y a quand même eu, et le problème, c'est qu'à l'inverse, il y a eu des bouquins assez essentiels qui, eux, n'étaient toujours pas arrivés pendant les vacances de Toussaint, que les élèves ont pu enfin avoir au début, juste au retour des vacances de Toussaint, mais... Voilà, donc les profs ont dû improviser. En général, eux avaient un bouquin, donc faisaient des photocopies, mais voilà, c'est...
Puis il y a aussi les conseils de classe, où là, pour le coup, jusqu'à avant les conseils de classe, qui ont lieu normalement tous les trimestres, ils ne savaient pas comment ils allaient faire.
Ouais, il y a un comité de suivi de la réforme qui est censé aider à ce que la navigation à vue soit moins pénible, on va dire.
Ouais.
Donc le problème, c'est que du coup, ça a démultiplié le nombre de profs sur une classe qui donne des cours ailleurs, etc. Donc avant, quand tu avais une dizaine, douzaine de profs présents sur la classe, ça représentait, on va dire, 2/3 des enseignants. Maintenant, c'est la moitié en fait, du staff. Et qui ont fait venir les profs de spécialité plutôt, ceux de tronc commun? Est-ce qu'il y a un prof de spé qui va représenter les autres, etc. Ça, c'est pas encore défini. Ils sont en train de réfléchir à ça. Donc, pour l'année prochaine, ça devrait être bon. Et donc, ça repose la question de l'avoir appliqué dès cette année, la réforme. Si on est au point que l'année prochaine, pourquoi on n'a pas attendu l'année prochaine? C'est en tout cas la question que se posent plein de parents.
Eh bien, justement, pourquoi, à ton avis?
Et pourquoi
de ce que tu as pu enquêter, de ce que tu as pu chiner comme information?
La réponse, elle est très simple. C'est que 2021, tu es encore dans le mandat présidentiel.
D'Emmanuel Macron.
Et que pour pouvoir afficher ça sur son bilan, quand je n'en doute presque plus, il voudra se représenter... à l'élection présidentielle, il pourra dire hey, moi j'ai réformé le bac les mecs et ça marche vachement bien.
Est-ce que, ben, comme tu le dis à un moment, je crois dans le premier article, tout ça pourrait ressembler à un bordel monstre?
Ouais, globalement, bah, ils me le disent plus poliment quand même, les profs et puis
surtout les profs de français.
Ouais, voilà, c'est ça, mais globalement, ouais, c'est quand même un peu le bazar, quoi.
Toi, Lucas, qu'est-ce que t'en penses?
Oui, pour moi, en fait, je sais pas trop ce que ça va donner, mais je m'attends. En fait, je suis super mitigée. Je m'attends peut-être à un niveau d'échec énorme, important, ou alors peut-être même tout le contraire. Mais je sais pas, c'est super flou.
Ouais, c'est un peu l'impression qui se dégage de la réforme. Pour l'instant, les notes, c'est plutôt... Les moyennes, je crois, c'est les mêmes hein, que l'année dernière, non? C'est un peu plus bas, un peu plus haut, c'est comment?
Alors, il y a le prof principal de la première G4 qui a regardé leur moyenne de l'année dernière, donc en seconde. Et ouais. Tout le monde est dans la même zone à peu près. Il y a eu le phénomène du premier devoir où pas mal d'élèves n'ont pas forcément réussi, mais se sont rattrapés après.
Ouais.
Donc lui, il était plutôt rassurant en disant globalement, vous êtes les élèves qui avaient plutôt des difficultés ont toujours des difficultés. Les élèves moyens sont toujours moyens, etc. Les bons toujours bons. Donc ils n'avaient pas l'air de s'inquiéter. Globalement, quand même, la plupart des profs me disent que les programmes de spécialité sont ardus.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose aussi qui... Parce qu'on parle vachement d'organisation et les E3C, comment ça va se passer? On va les mettre où les élèves? Sur quelle table? Dans quelles conditions? Mais globalement, il y a le fond aussi qui est important. Et les programmes, visiblement, notamment en maths, on a beaucoup de retours sur le fait que c'est beaucoup plus difficile.
Les maths sont difficiles. Après, normalement, les programmes de seconde sont censés être adaptés pour la première. Si le premier change, mais que les programmes de seconde n'ont pas été adaptés au nouveau programme de première, c'est compliqué.
Ouais, complètement. C'est ce que me disaient certains. C'est que du coup, il y a des choses qui sont étudiées au collège, on les revoit en seconde et ça prépare à les approfondir à partir du moment où tu prends ta SP en première et en terminale.
Yes.
Et vu que ça, on a sauté la case seconde, il n'y a pas de continuité dans les programmes. Donc il y a des profs qui enseignent des choses en disant aux élèves qui ont l'air de rien comprendre, mais vous ne l'avez pas vu l'année dernière? Bah non, en fait, ce n'était pas dans le programme de l'année dernière.
Ouais.
Donc ce changement de programme, il est hyper important aussi pour expliquer un peu le stress et puis de cette méfiance vis-à-vis de la réforme.
Est-ce que, peut-être pour un peu nuancer, parce qu'on est quand même très critique sur la réforme, est-ce que finalement, ce n'est pas, on va dire, presque normal qu'une réforme comme celle-ci, qui implique beaucoup de changements, que les débuts soient difficiles, qu'on rame et qu'ensuite ça va se stabiliser et ça ira mieux?
Si, évidemment, bien sûr. Et puis tout changement n'est pas forcément négatif, mais disons que ceux qui le vivent aujourd'hui de l'intérieur, ils ont du mal à ne pas se sentir comme des cobayes. Mmh. Et ça, tu ne peux pas leur enlever. C'est que, effectivement, ça roulera très certainement beaucoup mieux l'année prochaine. En attendant, eux, cette année, ils essuient un peu les plâtres.
Désolé, Lucas, tu essuies, tu essuies les plâtres. Du coup, pour toi, Maïté, c'est quoi les prochaines grosses étapes, en fait?
21-24 janvier, donc ils vont se retrouver sur ces premiers examens de contrôle continu.
Ouais.
Les sujets sont tirés d'une banque de sujets nationale, mais c'est corrigé par les profs de l'établissement. Donc notamment le proviseur de Mounier, Joseph Sergi, rappelait aux parents qu'il y aurait une forme de bienveillance, qu'il n'oubliait pas que c'était un test.
Ouais.
Donc faut pas s'inquiéter.
Mais oui, ça va très bien.
Si vous écoutez la radio, les lycéens de première GK, ça va aller.
Ça va aller. Mais bon, vous devriez quand même réviser au lieu d'écouter la radio. Non, mais après, il y avait une question que me posait mon frère. Est-ce qu'il y a des matières qui peuvent ne pas aller ensemble? Par exemple, la physique, première S. Si on faisait de la physique sans faire de maths, c'est compliqué quand même. Est-ce que est-ce qu'il y a des combinaisons qui, justement, ne fonctionnent pas ou peuvent. Des matières qui ne se retrouvent pas, on va dire?
Moi, je trouve que oui. Enfin, il y a pas de. Je pense qu'il y a pas trop de matières qui vont pas ensemble, mais c'est juste qu'après c'est pour plus tard. Je pense que ça pourrait poser problème. Je reprends l'exemple d'un élève de ma classe vraiment qui a pris de l'art avec des sciences.
Ouais.
Là, vraiment, on sait pas trop se positionner. Donc.
C'est ce que disait Maïté aussi. C'est après la terminale, l'art.
Ouais, c'est ça.
C'est le risque. Et alors, il y a toujours entre en commun de l'enseignement scientifique.
Ouais.
Donc, si tu prends en spé physique-chimie, tu auras normalement, avec l'enseignement scientifique, la base pour pouvoir suivre.
Ouais.
Tu n'es pas obligé de faire spé maths à côté. Mais oui, c'est vendre la diversité aux élèves, c'est bien, dans le fond. Mais après, de fait, comment ça va se moduler, comment ça va s'adapter à leurs choix futurs, ça, c'est encore la grande inconnue.
Inconnue, équation, maths. Qu'est-ce qu'elle est forte, cette Maïté. Bon, toi, Lucas, tu es plus français que maths. Tout à l'heure, dans le portrait chinois, On te demandait si tu étais un livre, tu n'avais pas trop d'inspiration. Est-ce que c'est revenu ?
Oui, un livre en fait qui a vraiment, on va dire, marqué mon enfance, c'est Roule la galette.
Raconte-nous ce livre.
Je sais que c'est un renard. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, ce livre.
Et ça t'attendait pas à la question.
Pas du tout, non. C'est un renard qui vit une aventure folle avec une galette.
Exactement. Et je ne crois pas qu'il arrive à la manger à la fin.
Non.
Ça donne.
Je crois qu'il est surtout ami avec elle.
Alors, je vais vous lire le résumé que j'ai trouvé sur Google Book, parce qu'on est très réactif ici. Une galette s'ennuie à refroidir, se laisse glisser de la fenêtre et s'enfuit sur le chemin. Elle roule, bat la campagne, chantonne et échappe successivement à la convoitise d'un lapin, d'un ours, d'un loup. Mais quand le malin renard la tire, que va-t-elle devenir ? Tu te rappelles des souvenirs ?
Un petit peu, oui. Toutes les premières paroles, oui.
Bon, on va peut-être pas la mettre parce que ça dure longtemps. Mais ce qui est bien, c'est que ça permettra de remplacer l'instant narration de Mathilde, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Puisque Mathilde avait piscine, il y a Maïté, qui elle aussi a piscine. Et elle en a marre, c'est pour de vrai. Et elle en a marre des bons hommes qui prennent toute la place. C'est l'heure de son bail du soir. Il y a un petit jingle et ensuite tu commences. Maïté, c'est à toi.
Alors d'abord, je voudrais dédicacer cette chronique à toutes les baleines qui sommeillent en nous, nous les femmes, à ces impératrices des mers, hélas parfois empêchées à la piscine de faire leur longueur peinarde. Je vais vous parler ce soir de manspreading. Vous savez ce que c'est, Amine et Lucas ?
Ah, il fallait que je rallume le micro du coup, ça ne m'arrange pas.
Allez,
manspreading, ce sont
aide.
Les hommes qui prennent toute la place, c'est ça ?
Exactement, c'est cette tendance qu'ont les hommes, oui, vous les hommes, à s'étaler dans les transports en commun, en nous laissant un demi-siège pour espérer s'asseoir. Eh bien, cette habitude de se répandre sévit aussi dans l'eau. J'en avais parlé dans une chronique pour Libération il y a 2 ans, ce qui m'avait valu de recevoir sur ma boîte mail une menace de mort. Oui, vous avez bien entendu. J'ai d'ailleurs porté plainte, pas de nouvelles, de l'enquête. Si le procureur de Grenoble nous écoute, qu'il n'hésite pas à appeler le standard de News FM. Voilà ce que disait cette chronique. Le manspreading aquatique est une source d'agacement qu'endurent les adeptes de natation à bas bruit, parce que c'est pas facile de se faire entendre la tête sous l'eau, hein. Laissant flotter un sentiment d'impuissance. Comme dans le métro, à l'heure de pointe, la nage amateur obéit à quelques codes. Dans une ligne, on tient sa droite et on double au milieu. Pour se reposer, on préfère les bords. Pour ne pas squatter en bout de ligne, ça gêne le demi-tour des autres. On évite de démarrer sous le nez d'une personne en train de repartir. C'est pas une course de relais, ça casse l'élan et c'est chiant. Et on oublie le départ plongé, à moins de tenir à simuler un tsunami. Autant de règles de bienséance dont s'exemple souvent la jante masculine quand elle partage le bassin avec des femmes. Entre barbeaux, on joue des coudes et c'est normal. Aux côtés des nageuses, on passe en force et on s'en fout. Il n'est pas rare de se faire griller la priorité, d'oublier à la sauvage, d'être ainsi poussé et de boire la tasse. À peine franchi le pédiluve, un regard suffit aux pratiquantes assidues pour évaluer si la séance sera musclée ou non. Dans la plupart des piscines, les couloirs de nage sont balisés par un panneau rapide, lent, brasse, crawl, avec ou sans équipement. Le respect de cette répartition décroît à mesure que grimpe le taux de remplissage des lieux. À tous les coups, les hommes vont surévaluer en allant direct chez les rapides, même s'ils font une brasse passable, et les femmes vont, elles, se retrancher dans les lignes moins exigeantes, quand bien même elles maîtrisent le crawl sur le bout des palmes. Si les esclandres nés de ce marigot sont pareils à une tempête dans un verre d'eau...
On reconnaît l'écriture Libé, là.
Et on en arriverait parfois à espérer que les couloirs soient non mixtes, histoire de lever aussi le doute sur le phénomène, heureusement marginal, du frottage-pelotage, alimenté par ceux qui doublent de toujours trop près et par ceux dont le mouvement de bras finit une fois sur deux quand on se croise sur notre fesse ou notre sein. Mais que les nageurs se rassurent, on ne se rend pas à la piscine uniquement pour les bassiner avec l'égalité des sexes.
Oh.
Nous aussi, on vient réaliser des performances. Voilà ce que disait cette chronique. Et voilà ce que je veux redire ce soir. En pensant aux lycéennes qui vont passer la natation au bac 2021 et deviendront peut-être plus tard des usagères des bassins grenoblois, vous avez votre place à la piscine. Je pense aussi aux lycéens dont les aînés ont parfois du mal à enlever la buée de leurs lunettes pour se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls dans le bassin. Qu'un peu de savoir-vivre et parfois moins de testostérone, peut-être, c'est le début de l'émancipation. La nôtre, mais aussi la vôtre. Parce que vous savez ce qu'elle mange, la baleine ? Principalement du plancton. Mais aussi les petits poissons qui restent en travers de sa route.
Ouh là 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 là, bravo Maïté. Lucas, ça t'inspire une réaction?
Oui, je... Non, vraiment, c'était très bien écrit, j'aime beaucoup. Et puis, bah, c'est des faits, c'est la réalité. C'est...
On reconnaît la journaliste professionnelle, là, quand même.
C'était l'instant féministe de Open
Buy. On en fait souvent des instants féministes. Hein. Je ne sais pas si tu as écouté les autres émissions.
Ouais, mais Mathilde n'étant pas là, tu vois, je me suis sentie obligée de compenser, quoi.
Mais c'est bien, mais tu as très bien compensé à ta façon. Non, c'est très bien, c'est très intéressant. Et puis cette écriture, toujours cet esprit. Et ça, vraiment, si vous avez aimé cette chronique, allez la retrouver sur le site des Jours. Abonnez-vous aussi. Je crois qu'il y a des petites promos en ce moment. Donc allez voir un peu ce qui s'y passe, parce qu'elle a une écriture qui est quand même assez, toujours plein d'esprit, avec un petit pic comme ça.
C'est ça, devenez juriste. C'est comme ça qu'on dit dans notre jargon.
Ouais. Alors, oula, mais qu'est-ce qui se passe? Il est 21h05, mais l'émission touche à sa fin. C'est la sonnerie.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie.
L'école n'est malheureusement pas finie, mais Open By, c'est fini déjà. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier rendez-vous en direct de l'année 2020. Merci Maïté, merci Lucas. J'espère que vous avez passé un bon moment.
Oui.
C'était super, merci beaucoup de ton accueil, Amine.
Merci beaucoup.
Oui. Merci d'être venu. Lucas, est-ce que tu as des petites dédicaces à faire passer? C'est le moment.
Je ne sais pas si Corinne m'entend, mais si elle m'entend, salut. Et aussi si Paul Bresson m'écoute aussi, bonsoir. Et bonne nuit à tous, en vrai.
Bonne nuit à tous, il est 21h05 quand même, il faudrait. Maïté?
Il y a école demain, il faut se coucher tôt. Alors justement, j'en profite pour faire un gros bisou à mes loulous.
Tes loulous, eh ben, ils t'embrassent sans doute, j'en suis sûr. Ils t'écoutent là?
Non, je pense qu'ils sont couchés, en tout cas, j'espère. On verra ça avec leur père.
Eh ben, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. On vous embrasse et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission sur News FM, évidemment. Et la soirée continue avec plein de belles ondes pour vous. Bisous, bisous!